du cadre, ni LFI, ni RN.
Il faut d'abord préciser que ce parallélisme est trompeur, car Emmanuel Macron veut effectivement consulter en dehors de ses partis aux extrêmes, mais quand il a reçu le seul PS vendredi, le reste de la gauche est indigné et a exigé que tous les partis du nouveau Front Populaire soient consultés, y compris LFI. Et qu'a fait le président? Eh ben, il a cédé. Il a invité tout le monde. Et si les insoumis ne sont pas venus, c'est parce que c'est eux qui ont refusé de venir, pas parce qu'ils n'ont pas été invités. Alors maintenant, à nous, il dit à nouveau, on avance les filles. Mais que fera-t-il si ceux qu'il avait pourtant qualifiés jeudi de complices du front anti-républicain le somment de ne pas exclure Mélenchon et ses amis? Sous couvert de nini, on voit bien que c'est toujours le seul RN que Macron maintient en dehors du cercle républicain. Vous le voyez, hein, il y a encore beaucoup de flou, y compris dans la méthode, avant d'aboutir à ce gouvernement d'intérêt général dont parle Macron, comme si d'ailleurs au passage, tout gouvernement n'était pas censé être d'intérêt général.
Ça c'est vrai, très bonne remarque. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Tout cela ne nous dit pas si on aura un Premier ministre sous le sapin le 25 décembre. Et maintenant l'invité de la matinale va nous aider à comprendre ce qui se joue entre ces partis politiques et l'Élysée et une recomposition politique qu'est-elle à l'œuvre. Bonjour Patrice Duhamel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Classique, essayiste politique, écrivain, journaliste, auteur avec Michel Cotta et Jean Garrigue du documentaire formidable Dissolution, histoire d'un séisme politique diffusé sur France 2 il y a quelques jours et que vous pouvez toujours regarder en ce moment sur Internet. Avant d'évoquer ce documentaire, première question, un président qui reçoit des partis pour savoir sur quelle base il ne censurerait pas un Premier ministre qui n'est pas encore nommé, avez-vous déjà vu ça?
Non. C'est un mélange joyeux ou triste, on verra cet après-midi, de la 4e et de la 5e République, parce qu'a priori, ça serait la fonction d'un chef de gouvernement qui serait nommé par le président de la République et qui serait chargé de voir avec les différents partis dans la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est la 4e République. Et la 5e, c'est que c'est le président qui les convoque à l'Élysée, sachant que le climat qui préside à cette réunion est assez étrange parce que il y a déjà des participants comme Madame Tondelier qui dit si ça se passe mal, on va s'en aller, les portes vont claquer, etc., etc. Bon. Je ne sais pas si l'esprit de Notre-Dame va souffler sur cette réunion, mais il ne faut pas, je pense, en attendre des miracles.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Patrice Duhamel, et expliquer à nos auditeurs ce qu'est ce fameux accord de non-censure? Parce que ça n'est pas un accord de gouvernement, c'est pas un programme de participation à ce gouvernement. C'est quelque chose d'inédit, là aussi, sous la Ve République.
Oui, alors, on dit soit non-censure, soit non-agression, c'est plus non-censure, parce que non-censure, ça veut dire que certains partis politiques, à certaines conditions, s'engagent à ne pas censurer le gouvernement. Tout ça, ça vient de l'électrochoc de la censure de mercredi dernier. On a l'impression que ça fait la vie politique va très très vite en ce moment. Ça fait 6 jours. Il y a un vrai électrochoc dans l'opinion. Tout ce qui est remonté de ceux qui ont signé la censure et qui ont voté la censure, que ça soit à gauche ou chez Marine Le Pen, c'est qu'ils se sont fait bien engueuler par leurs électeurs pendant le week-end.
Ah oui, on a vu.
Et Marine Le Pen, elle a perdu une élection qu'elle n'aurait pas dû perdre normalement.
Alors, il y avait très peu de participation.
Oui, mais quand même.
Il y a des signes qui trompent pas. Oui, c'est ces agriculteurs qui déposent du lisier devant certaines permanences. Voilà. François Hollande ou même des députés du Rassemblement National qui sont interpellés là-dessus. Comment vous interprétez ça?
C'est que personne n'a la solution, que tout le monde est encore sous le choc. Vous parliez du film qu'on a fait avec Michel Cotta et Jean Garrigue, sous le choc de de cette dissolution. Quand je dis choc, c'est cette sidération, c'est ce qui ressort du film d'ailleurs, c'est que moi ça m'a beaucoup frappé que tous ceux qui s'expriment, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, il y a à peu près tous les responsables politiques qui s'expriment dans ce film, étaient au moins aussi sidérés que les journalistes ou que les Français. Et que depuis cette dissolution, depuis le 9 juin, en réalité, la vie politique, elle tourne à la fois sur elle-même en cherchant des solutions, on n'y arrive pas. On peut pas reprocher au président d'essayer de trouver une méthode cet après-midi. c'est un petit peu ce qu'il avait fait, ce qu'on avait appelé les rencontres de Saint-Denis l'année dernière et l'année précédente. Ça avait d'ailleurs pas débouché sur grand-chose. Mais il y a tellement de lignes rouges des deux côtés, juste en quelques mots, parce qu'on veut
bien
pas...
Bien sûr, voilà. Il faut parler du fond. Il faut parler du fond, parce que c'est pas uniquement des calculs de citer avec moi combien on est pour savoir si on a une majorité absolue.
Côté gauche, il n'est pas question de ne pas toucher, et si possible... ils veulent absolument abroger la réforme sur les retraites. Ça, c'est inacceptable pour le président de la République, qui a dit ça, c'est s'il a une ligne rouge, c'est bien celle-là. De l'autre côté, il n'est pas question de renoncer à une loi immigration, par exemple. Et entre les deux, faut voir où est la frontière. Il y a le problème de la fiscalité. Les ex-macroniens disent il faut pas alourdir. Déjà, les impôts sont plus importants en France qu'ailleurs, etc., etc. Et de ce point de vue, ils ont d'ailleurs raison. Et puis, du côté gauche, ils disent faut quand même rétablir la justice fiscale et donc s'en prendre aux grandes entreprises et aux gros patrimoines. Donc c'est assez inextricable et a priori, quand on voit les choses comme ça, on se dit il faudrait lâcher un petit peu aux socialistes, aux écologistes et aux communistes. Je ne sais pas, une nouvelle négociation qui avait été d'ailleurs évoquée par Michel Barnier sur les retraites. Non pas l'abrogation, mais une négociation sur la pénibilité, sur les carrières longues, par exemple.
Ou même l'amélioration du financement, des conditions de financement.
Et d'ailleurs, vous avez d'autant plus raison que si ça se passe comme ça, c'est l'hypothèse optimiste, hein, si ça se passe comme ça, il y aurait ce qu'on appelle une conférence de financement d'abord pour voir quelles sont les hypothèses et pour pouvoir trancher ensuite. Mais ça voudrait dire que le président accepte qu'on remette en cause de près ou de loin sa réforme sur les retraites qu'il considère comme quelque chose d'essentiel dans son socle. Le sujet de base, pour revenir à votre première question, c'est que il a perdu les élections européennes. Il a fait une erreur manifeste. Alors, il la reconnaît pas vraiment, mais il reconnaît que ça a été incompris avec la dissolution. Il a perdu dans la foulée les élections législatives. Il a reperdu avec l'échec de Michel Barnier. Il peut pas se permettre un nouvel échec maintenant. Donc, dans une première étape, la semaine dernière, il a essayé de trouver un Premier ministre profil François Bayrou qui essaie de mettre un peu tout le monde d'accord, mais chiffon rouge du côté de LR parce que François Bayrou a soutenu François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc il n'a pas trouvé le profil idéal ni la personne idéale.
Patrice Duhamel, est-ce que vous imaginez que la France puisse se gouverner au centre avec LR peut-être, mais plutôt le groupe Pliot, et puis ensuite les socialistes, et puis ensuite le Modem, et puis les écologistes? Vous imaginez le vieux rêve giscardien, vous avez connu cette époque, d'un centre. C'était deux Français sur trois, disait Giscard.
Un livre de Giscard qui s'appelait « Deux Français sur trois ». Et Giscard m'avait dit pendant la campagne de 81, « Si je gagne, j'essaierai de nommer Michel Rocard à Matignon. »
C'est un scoop, ça.
Oui. Et il y avait eu des rencontres préalables à la fin de l'année 1980. C'était ça l'idée et le rêve. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas l'extrême gauche ou la gauche radicale et LFI. Mais au jour d'aujourd'hui,
il n'y a pas de Michel Rocard.
Non, et puis ça ne suffit pas. Ouais. Si on met juste les socialistes et ce qu'on appelle le bloc central, LR n'y participerait pas, ou alors non-censure, enfin tout ça extraordinairement compliqué. L'idée maintenant, de la nouvelle méthode, on verra cet après-midi ce qu'il en sort, et d'une espèce de socle de trois ou quatre réformes, et notamment le vote du budget, de tenir jusqu'à la prochaine dissolution.
J'ose même pas, Patrice Duhamel, vous demander, mais avec quel Premier ministre? Parce que c'est quand même largement conditionné sur la qualité des échanges et la dimension constructive de ces échanges de cet après-midi et peut-être de demain.
Alors, il y a quatre noms, en réalité. Alors, il y en a sept ou huit qui sont cités. Mais il y a quatre noms sérieux, par ordre alphabétique. C'est François Bayrou, c'est Xavier Bertrand, c'est Jean-Yves Le Drian, mais ce matin, Madame Tourdelier a dit Jean-Yves Le Drian, il n'en est pas question. Il a été au Parti Socialiste, mais ensuite il a rejoint Emmanuel Macron, donc on oublie. Et quatrièmement, Catherine Vautrin, qui avait été presque Premier ministre en 2022.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est extraordinairement difficile de dire aujourd'hui. Les dernières fois, c'est toujours dans les dernières heures qu'on a appris qui était Premier ministre, et c'était un nouveau nom.
Alors, pas de conjecture. J'en viens à votre documentaire. Écoutons-en un extrait pour nous mettre dans l'ambiance. C'est formidable.
La dissolution, c'est pour moi une arme ultime dont 9 fois sur 10, on fait un mauvais usage.
Un coup de poing dans l'estomac. une dissolution comme ça, à chaud, quand on a vu le résultat des européennes. C'est pas possible.
Nous avions notre verre de champagne à la main pour fêter les résultats, et on a fait, ah, gloups, on a posé le verre de champagne.
Ma première réaction, mais tout de suite, péché d'orgueil.
Alors, je ne peux pas vous dire que je comprends la décision, spontanément.
Bon, c'est trop beau. La gourmandise aussi est là. Après, oui, on se dit, mais il est fou.
Là, on joue à la roulette russe avec l'avenir du pays, en tout cas de sa démocratie, de ses institutions.
Alors, dans l'ordre, Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Jean-François Copé, Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, j'en oublie. Il y a beaucoup de témoins et d'experts en politique et de premier plan qui se sont penchés sur cette dissolution. Globalement, personne n'a compris. Vous parliez tout à l'heure de sidération. Ouais. Patrice Duhamel, ce documentaire que vous avez réalisé, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites qui vous ont laissé pantois?
Alors, une chose dans la bouche de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui raconte avec précision le coup de fil qu'il a reçu d'Emmanuel Macron, donc le 9 juin, vers un peu plus après 20h.
Je l'ai pas diffusé pour que les gens qui vont voir votre documentaire sur internet aient la surprise.
Et où il dit en substance, il m'a pas consulté, ce qui normalement est ce qui est prévu par la Constitution dans son article 12. Il m'a juste informé et il dit en riant, petit trait d'humour, j'ai eu tort, j'aurais dû lui rappeler qu'il n'avait pas vraiment respecté la Constitution. Ça, c'est ce qui m'a le plus frappé, que le président du Sénat le dise comme ça, face caméra. Et bien sûr, il avait raison. Et les deux choses que je retiens, c'est les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, qui, à la fin du documentaire, quand Michel Cotta lui demande quelle est la solution pour que cette crise se résolve, répond, c'est pas du Sarkozy, hein, il répond, je ne sais pas. Il répond, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire.
Un peu d'humilité.
C'est rare. Et François Hollande, qui dit, c'est une décision d'un homme seul qui a décidé seul. Et c'est ça la réalité.
Et aucun ne l'appelle à la démission, mais ils y pensent très fort, probablement. Patrice Duhamel, une dernière question. Quand on y pense, quand on refait le chemin à l'envers, pour citer le chanteur Dave, est-ce que la dissolution n'aurait pas dû avoir lieu dimanche prochain?
Ben oui, c'est la bonne question. Le président a expliqué en public et beaucoup en privé que, de toute façon, le gouvernement aurait été censuré au moment du budget et que donc il préférait anticiper. Une dissolution, s'est rappelé dans le film, notamment par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, que c'est fait pour régler une crise, comme De Gaulle l'avait fait en 62 ou en 68.
Il y a le mot solution dans dissolution.
Voilà. Et alors que là, il a provoqué la crise. Mais effectivement, s'il avait attendu la censure au moment du budget et qu'il avait dissous à ce moment-là, les Français auraient sans doute compris pourquoi il avait décidé de dissoudre. Là, ils n'ont pas compris.
Patrice Duhamel, merci à vous. Je rappelle que ce documentaire « Dissolution, histoire d'un séisme politique » est à voir sur le site de France Télévisions. Pour y arriver, c'est tout simple. Vous tapez le titre dans votre moteur de recherche préféré « Dissolution plus histoire d'un séisme politique » et vous devriez tomber dessus. Si vous êtes passionné de politique et si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, si vous voulez aussi entendre nos responsables politiques sans langue de bois raconter éberlués comment ils ont vécu ce moment historique de notre vie politique, vous allez vous régaler. Merci Patrice, à bientôt.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Les journaux d'aujourd'hui soufflent le chaud et le froid.
2024 sera bien l'année la plus chaude de notre histoire. C'est le diagnostic du programme européen Copernicus et c'est à lire dans Ouest France. La température annuelle moyenne de la planète va dépasser pour la première fois de 1,5 degré le niveau pré-industriel, c'est-à-dire la période 1850-1900. Le mois dernier a été le 2e novembre le plus chaud jamais enregistré après celui de 2023. Le phénomène est en grande partie dû à El Niño et à ses remontées d'eau chaude du Pacifique Ouest vers l'Est. Mais alors que la chaleur aurait dû retomber en cette fin d'année, le refroidissement a été plus lent cette année pour des raisons que les experts, figurez-vous, n'arrivent pas encore à expliquer. À ce rythme, la Terre se réchauffera de 3,1 1 degré d'ici la fin du siècle. Cette perspective est assez glaçante.
Si seulement. Tout aussi glaçant le récit des atrocités commises par la dictature syrienne qui vient de s'effondrer dans l'enfer des geôles d'Assad, titre Libération.
L'envoyé spécial du quotidien décrit de l'intérieur la prison de Sednaïa qui était le symbole et le théâtre des atrocités du régime. À 30 km de Damas, où des milliers d'opposants ont été tués, la plupart par pendaison. À l'intérieur du béton froid, les mots manquent pour décrire l'horreur. Tous les stigmates du cauchemar sont là. Il y a quelques heures, des centaines de détenus martyrisés s'entassaient dans ces cellules insalubres. Certains n'avaient pas vu le jour depuis des années. Des prisonniers sortis la veille ont eu la force de revenir pour guider les rebelles dans ce labyrinthe, écrit Libération, à la recherche de tunnels qui mèneraient vers des geôles de torture. Hussam a passé 3 mois à Sednaïa, mais son frère y est encore. C'était des passages à tabac, des brûlures, raconte-t-il. On me forçait à dire que Bachar est un dieu en me brûlant les pieds, en me battant avec une tige en fer. Dans l'un des couloirs, des hommes tirent un immense plateau de ferraille bruni par la rouille et sans doute le sang. C'est une table d'exécution, s'écrie l'un d'eux. L'odeur est insupportable. On devine indicible la barbarie des lieux.
En France, Emmanuel Macron est toujours à la recherche d'un Premier ministre.
Le président a convié les chefs des partis politiques cet après-midi à l'Élysée et on ne sait pas encore quelle sera la température ambiante. Si vous avez aimé le feuilleton politique de l'été, écrit Le Parisien, vous adorerez la saison 2 dans le froid hivernal. Peu optimiste sur l'issue de ces consultations auxquelles le RN et la France Insoumise ne sont pas conviés, Le Figaro parle d'une coalition introuvable et estime que les conditions d'un accord entre les autres forces politiques sont loin d'être réunies, eu égard aux multiples désaccords de fond sur les retraites, le budget ou l'immigration. Le journal L'Opinion relève cependant que la France Insoumise tenue à l'écart, plus rien ne retient le PS, les Verts et les communistes de négocier une plateforme de non-censure avec les macronistes. On verra bien. Le Parisien relève de son côté que Michel Barnier a repris l'écriture du livre qu'il préparait avant son passage éclair à Matignon. Le titre sera « 120 leçons de vie ». Qu'y aura-t-il dans le dernier chapitre ? On brûle de le savoir.
Une autre expérience gouvernementale très observée, c'est celle du président Javier Milei en Argentine. L'homme à la tronçonneuse, un an après son élection, la presse tire un premier bilan contrasté.
Un an de thérapie de choc, résume Les Échos, avec sa tignasse ébouriffée et sa tronçonneuse, vous le disiez, Milei passait pour un dingue. C'est aussi un professeur d'économie, adepte des théories libertariennes et de l'anarcho-capitalisme. Sa dévaluation choc du peso, la monnaie argentine, a permis de réduire l'inflation de 25 à 2,7%. Milei a aussi réduit d'un tiers les dépenses publiques, notamment en licenciant 33 000 fonctionnaires et en privatisant à tout va. Le budget est repassé au vert, du jamais vu en 16 ans, relève la Croix, et pour cause, cette année, l'enveloppe allouée à l'éducation que le président rêve de confier au secteur privé a diminué de 40%, écrit le quotidien catholique. Dans le même temps, le pays s'enfonce dans la récession et plus d'un Argentin sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Le Monde ajoute que Javier Milei mène aussi une bataille culturelle contre l'écologie, les droits sociaux, les droits des femmes ou ceux des minorités sexuelles. Il a fermé le ministère de l'Environnement, l'Agence de presse nationale et l'Institut national contre la discrimination et le racisme. Malgré tout cela, il garde 56% de popularité parmi les Argentins.
On termine avec une belle exposition qui nous ramène à l'enfance. Les ours en peluche dans le musée des arts décoratifs retracent l'histoire.
Et le Parisien s'en émeut et s'en réjouit. Le nounours est la star de nos chambres d'enfants. L'assurance tendresse depuis plus de 100 ans. L'ours était déjà le compagnon de l'homme à la préhistoire, des peintures rupestres en témoignent. Dans le froid glaciaire des premiers temps, écrit le Parisien, nos lointains ancêtres adoucissaient déjà l'image de l'ours, à la fois ennemi et proie, en le figurant tout en rondeur. C'est l'Église qui en a fait une créature du diable pour lutter contre les rituels païens, mais ne vendez pas sa peau avant de l'avoir tué. Avec les premiers jouets à la fin du 19e siècle. L'ours rivalise avec l'éléphant pour rassurer les petits. C'est le plantigrade qui va l'emporter grâce à l'aide du président américain Theodore Roosevelt, qui donne son prénom au fameux Teddy Bear, la peluche la plus célèbre du monde, et aussi l'aide d'une couturière allemande qui crée le premier doudou au début du 20e siècle. L'exposition rend hommage à ces nounours que nous avons tant aimés, Collard Gold, Winnie, les bisounours. Pour les plus jeunes, c'est plus charmant que l'ours russe qui envahit l'Ukraine et que tous les ours mal léchés de la vie politique française. Un peu de douceur et de chaleur donc dans notre monde de brutes qui en manque tellement.
Est-ce que vous aviez un nounours, Hervé Gattegno, ou un doudou ?
Ni l'un ni l'autre.
Oh ben dis donc, quelle autonomie pour un enfant donc très précoce. Moi j'avais un nounours but à gaz et il a été dévoré par un chien et donc ensuite j'ai pris un chien.
Pauvre bête.
Voilà, c'est comme ça. À demain pour d'autres infos tirées de la revue de presse et on a envie d'aller la voir cette expo sur les nounours.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec nos esprits libres du jour, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Christophe Barbier, éditorialiste, comédien, écrivain. Bonjour à tous les deux.
Bonjour David.
Merci d'être là en direct comme chaque mardi. Alors on aurait pu commencer sur l'impact de ce qui se passe en Syrie, sur les prises de position dans la politique française. On aurait pu évidemment commencer par les réunions, ou la réunion cet après-midi d'Emmanuel Macron à la recherche d'un socle ou d'un accord de non-agression ou de non-censure, mais il y a un signal faible, comme on dit, qui, moi, m'a interpellé ce matin, c'est la crise d'attractivité des métiers de la fonction publique, crise structurelle et généralisée de recrutement. 15% des postes offerts au concours de la fonction publique d'État n'ont pas été pourvus en 2022. C'était 5% seulement en 2018. Il y a une crise des vocations pour aller dans le public, alors qu'on a connu, il y a 20 ans, une ruée vers la fonction publique. Et traditionnellement, en France, où un actif sur 5, grosso modo, travailler dans le public, faire carrière dans le public, quel que soit l'échelon, quelle que soit la filière, c'était quand même la garantie de l'emploi, c'était trouver une famille professionnelle. Et là, il y a un problème.
Oui, mais saisissons le bon côté de ce problème. Que ce soit une mauvaise nouvelle, parce que les gens n'ont plus le sens civique et la volonté de se dévouer au service de l'État. Que ce soit une bonne nouvelle, ils ne candidatent plus à ces postes, parce qu'ils vont dans le privé, ils espèrent de meilleures carrières, il y a moins de chômage. Peu importe. Profitons-en, supprimons des postes. Puisque les postes ne sont pas pourvus, ben nous les ouvrons pas. Supprimons des postes et engageons un grand mouvement de réaffectation à l'intérieur de la fonction publique, des postes de bureaux qu'il faut supprimer pour dénormatiser la France, si j'ose ce néologisme, pour emmener ces fonctionnaires vers là où on en a besoin, c'est-à-dire le terrain.
Vous avez une tronçonneuse, vous, Christophe Barbier, on dirait Javier Milei.
Vous deux, vous en avez une.
C'est pas la tronçonneuse qu'il faut, parce que c'est pas notre tradition, et puis ça crée des soulèvements sociaux. Mais c'est une détermination quand même. Il faut quand même y aller à la hache dans les coûts de ce que représente aujourd'hui l'État. C'est pas un coût budgétaire.
Vous savez qu'il y a des fonctionnaires méritants.
Mais ils sont méritants, ils sont bons.
Radio Classique.
Mais ils sont formidables, nos fonctionnaires. C'est justement parce qu'ils sont bons et qu'ils font bien leur travail qu'ils créent de la norme. Et qu'ils disent, oh, stop, ce dossier passera par moi, je vais m'en occuper. Et je vais m'en occuper bien. Et ça perd du temps.
Cécile
Mettons-les là où ils seront encore plus utiles.
Cécile Cornudet, moi, ce qui m'inquiète, c'est que il y a des filières de la fonction publique, les médecins, les policiers, les profs, on en a absolument besoin. Et si on en recrute moins, c'est-à-dire qu'on va quand même en recruter un peu, et vous le disiez.
Oui, oui, le problème, niveau. C'est que le niveau baisse, puisqu'il y en a effectivement moins qui se présentent, et ben donc du coup, on prend ce qu'il y a. On le voit déjà dans l'éducation nationale. Moi, je pense que ça peut être aussi un moment de repenser la fonction publique, son statut. Si c'est moins attractif, c'est parce que les jeunes, aujourd'hui, quand vous leur dites que vous allez faire toute votre carrière quelque part, vous avez la garantie de l'emploi à vie, ben, ça leur parle pas du tout, ça. Eux, ils ont envie de changer tous les 2 ans, de vivre plein d'aventures, de prendre des congés sabbatiques, de revenir, de repartir. Donc peut-être que c'est le moment pour la fonction publique de se repenser, peut-être de remettre en cause son statut d'emploi à vie qui lui coûte très très cher, et peut-être du coup de rémunérer mieux ses fonctionnaires.
Je vous donne encore des chiffres quand même qui sont intéressants. Dans la fonction publique d'État, je ne parle même pas de la fonction publique territoriale, hein. 5,7 millions d'agents dans cette fonction publique d'État. Si 12 candidats se présentaient en moyenne pour un poste à pourvoir au concours externe de la fonction publique d'État entre 2000 et 2010,
Ils n'étaient plus que 4 en 2022. C'est-à-dire il y a vraiment une crise des vocations, une crise d'attractivité. C'est-à-dire que ça paye moins. Ça veut dire aussi, la bonne nouvelle, c'est que pendant ce temps-là, on faisait baisser la courbe bleue du chômage, peut-être dans le privé. Le privé était plus séduisant.
Oui, bien sûr, il y a cela. Mais vous vous rendez compte, les gens n'ont plus envie d'aller occuper des postes dont on n'a pas forcément besoin. On marche sur la tête quand même. Réfléchissons, où est-ce que nous avons besoin de fonctionnaires sur le terrain? Cela, il faut les engager, bien les payer et leur dire, attendez, dans 10 ans, 10 ans prof, 10 ans policier, 10 ans, on vous changera votre métier parce que au-delà de 10 ans, c'est difficile à supporter.
C'est vrai que Cécile Cornudet, on est quand même conditionné en France à s'inquiéter quand le nombre d'apprentis fonctionnaires baisse. C'est vrai, hein, c'est notre côté français, quoi. Ça nous inquiète.
Oui, et puis quand il y en a autant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous dans notre famille des fonctionnaires et donc ça change notre rapport. On a un attendrissement et il faut pas fragiliser cette fonction publique. Or, moi, je pense qu'on peut la repenser.
Alors, question de recrutement aussi, qui concerne notre vie politique, c'est le recrutement d'un Premier ministre et avant cela, la composition d'une majorité parlementaire qui ne censurerait pas immédiatement, dès le premier budget reproposé à la représentation nationale, un gouvernement qui proposerait donc ce budget. Y voyez-vous quelque chose? Est-ce que le brouillard se dissipe ou est-on parti pour avoir un Premier ministre début janvier, comme ça commence à l'augurer?
Alors non, je pense pas. A priori, ce que tente Emmanuel Macron, c'est d'amorcer une méthode et de très vite, d'ici la fin de la semaine, c'est ce qu'on nous dit, hein, et c'est vrai que c'était déjà d'ici la fin de la semaine dernière. Mais bon, de nommer un Premier ministre qui, lui, mettra en musique cette nouvelle méthode en faisant un contrat de gouvernement. Son idée, c'est simple. C'est, il est tombé parce que il comptait sur la mansuétude du Rassemblement National, et le Rassemblement National a appuyé sur le bouton de la motion de censure et l'a fait tomber. Donc face à un adversaire aussi peu fiable, l'idée c'est de décrocher les socialistes pour que même si le Rassemblement National continue à appuyer sur le bouton de la motion de censure, elle soit inopérante. Il ne se passe rien. Si vous avez juste LFI plus ERN qui vote la motion, il ne se passe rien. Alors, on aura Emmanuel Macron, ce qu'il voudrait c'est garder son socle commun, la droite plus les macronistes, et d'obtenir du Parti Socialiste un accord de non-censure, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de Premier ministre socialiste, il n'y aurait pas sans doute de participation au gouvernement, mais en échange de concessions sociales, et c'est ça qu'il faut discuter, les retraites notamment, la fiscalité, d'obtenir que le PS se détache de LFI et ne vote plus de motion de censure. Est-ce que c'est envisageable? Sincèrement, je trouve que depuis quelques jours, l'EPS a beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que ses électeurs eux-mêmes, ils ont été sur le terrain, disent « Attendez, on nous a mis avec cette motion de censure dans un chaos invraisemblable, avec un budget dont on ne sait pas quelle tête il aura. Il faut peut-être changer de stratégie. »
C'est vrai, Christophe Barbier, quand on y réfléchit bien, les Français, ils voulaient pas de la dissolution, me semble-t-il. Et ils voulaient pas davantage de la motion de censure, si?
Si, il y avait une légère majorité pour la motion de censure. Les gens voulaient la dissolution parce qu'ils n'en peuvent plus de Macron. Donc le penchant nihiliste de la France, sortez les sortants, était là. Puis tout de suite après, ils disent, ah ben non, mais ça met la pagaille. Alors il fallait pas. Vous voyez, regardez le RN. Ils disent, mais il fallait pas dissoudre. Mais ils réclamaient la dissolution avant cela. Donc non, il y a une contradiction chez les Français. Toujours cette envie quand même à la fois de chasser ces politiques qu'ils n'aiment pas, tout en demandant quand même un gouvernement.
En général, quand les politiques partent, ils les regrettent après.
Oui, après ils les regrettent. Mais avant, ils veulent les faire partir. Il y a cette contradiction française. Cécile montre bien la méthode. Est-ce que ça peut marcher? Je crains qu'aujourd'hui, parce que Mélenchon s'est réveillé, il a menacé les socialistes, eh bien, il y a deux pas en arrière du côté du PS. Il y a déjà eu un communiqué cette nuit pour dire, oh là là, faut un Premier ministre NFP, sinon on n'y va pas. Ils reviennent quand même vers une dureté de position. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de LFI, parce qu'ils ont peur de la prochaine dissolution, parce qu'ils ont peur d'être les premiers à casser cette union de la gauche. Donc je crains qu'aujourd'hui, on ne voit surtout que l'égoïsme et le manque de vision des partis. Intérêt général, a dit le président de la République. C'était un des rares mots importants de son discours de la semaine dernière. Personne ne pense à l'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent à leur intérêt particulier, même si les présidentiables y pensent. Ils pensent à leur intérêt partisan. Partisan. Entre le général et le particulier, il y a ce blocage du partisan et on est englué là-dedans. Peut-être que Macron aurait dû réunir uniquement les présidents de groupe à l'Assemblée et au Sénat. C'est-à-dire ceux qui font la mécanique parlementaire. Dedans, il y a des présidentiables, comme Attal ou Wauquiez. Dedans, il y a des gens désintéressés. Peut-être que ça aurait été la bonne solution.
Cécile Cornudet, pourquoi s'adresser davantage au président de groupe plutôt qu'au chef de parti?
Ça, je sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais pas moi si ça compte vraiment. C'est vrai que ce qu'il faut, c'est obtenir quelque chose à l'Assemblée nationale. On voit que c'est là que ça se passe et c'est là que ça a fauté. Donc c'est eux qu'il faut convaincre. Le PS, moi, je pense que là maintenant, il a été tellement loin dans la distanciation avec la France insoumise. La France insoumise les a tellement honnis depuis quelques jours de tendre la main à Emmanuel Macron que c'est presque irréversible. Donc j'ai l'impression que s'il n'y a pas un pas en avant, il va perdre sur les deux côtés. Donc, à mon avis, malgré le communiqué de cette nuit dont parle Christophe, ils ont intérêt à quelque chose. Et après, en face, vous avez Emmanuel Macron. Est-ce que lui peut lâcher sur quelque chose d'identitaire pour lui, qui est soit la réforme des retraites? Est-ce qu'il peut y avoir à bouger, comme on dit, là-dessus? Sincèrement, c'est en discussion, j'ai l'impression, dans les coulisses. Pas de revenir sur les 64 ans, mais de réaménager, de rouvrir un peu le dossier. Et est-ce que sur la fiscalité, et notamment du capital, il peut y avoir aussi quelque chose? Emmanuel Macron, il a besoin de cet accord, il a besoin des socialistes aujourd'hui. Donc les deux, je trouve, ont vraiment besoin d'un accord. Emmanuel Macron, il a besoin. Pourquoi? Parce que si dans un mois, ça censure encore, cette fois, la question de sa démission et derrière de la crime de régime très très grave qui peut se produire va être posée.
Donc, s'il y avait démission du président de la République, il n'y a pas d'élection avant 9 mois.
Les constitutionnalistes ont ce point de vue-là. En effet, on ne peut pas dissoudre avant début juillet. Voilà. Un an révolu après la législative provoquée par la dissolution précédente. Mais, vous disent les juristes, toutes les autorités se sont déclarées incompétentes pour interdire un décret de dissolution que prendrait un président nouvellement élu. Macron démissionne aujourd'hui, on vote le 15 janvier pour un nouveau président, il dissout, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont dit « nous ne sommes pas compétents pour annuler ce décret de dissolution ». Donc la crise de régime deviendrait encore plus une crise des institutions, la Ve République s'effondrerait sur elle-même.
Voilà, c'est ça.
Bon, alors on attend un Premier ministre. Tout à l'heure, Patrice Duhamel disait « Dans la configuration actuelle, on songe à Bayrou, à Madame Vautrin, Le Drian, mais Le Drian... »
Il ne veut pas.
Il veut pas, et je crois que les écologistes ne veulent pas de Le Drian, je ne sais pas pourquoi.
Les socialistes veulent de Le Drian, c'est ça la question, en fait. Ouais. Ça passe, hein, ils n'auraient pas besoin des écologistes. Mais Le Drian est persuadé que pour les socialistes, il est un traître, pire que Cazeneuve, si je puis dire, puisqu'il a été ministre d'Emmanuel Macron. Et que ça passerait pas. Quand vous appelez les socialistes, ils disent la situation a changé. Pour nous, Le Drian serait quelqu'un d'acceptable. Mais je crois vraiment qu'il n'en a pas encore.
Une question, Christophe Barbier. Il y a des gens qui sont disqualifiés parce qu'ils ont collaboré à un gouvernement, vite qualifiés de traîtres. C'est d'une violence de la part des socialistes, de sociaux-démocrates.
Et c'est surtout d'une irresponsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé après l'affaire Dreyfus? On a mis dans un même gouvernement des gens de gauche radicale et celui qui avait massacré la Commune. Mmh. On a fait l'Union. Qu'est-ce qui s'est passé en 44-45? Qu'est-ce qui s'est passé en 58? À un moment donné, on ne regarde plus qui est qui a fait quoi, mais où est l'intérêt supérieur de la France? Peut-être que la situation n'est pas assez mauvaise pour que les partis sortent de leur égoïsme et viennent dans cet esprit d'altruisme et de sacrifice. Pour l'instant, avoir anathèmes, c'est irresponsable.
Christophe, Emmanuel Macron avait annoncé un Premier ministre rapidement, c'était jeudi dernier, ça va donc traîner un peu.
C'était ses conseillers, voilà. Hein, pas lui.
Ouais. Et puis ça m'a donné de vous solliciter sur la notion d'attente théâtre ou dans la littérature.
Et de nomination d'un Premier ministre. Regardez ce que La Fontaine fait dire à Jupiter, dans Les Grenouilles qui demandent un roi. Elles lui ont demandé un roi, Jupiter, il a envoyé une grue qui dévore les grenouilles. Alors elles se plaignent, et Jupiter leur dit « Vous auriez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. » Ça, c'est Barnier. De celui-ci, contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. Ça, c'est le prochain.
Mes amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon. Bravo Christophe et bravo La Fontaine. On se sépare avec une œuvre qui sera jouée lors des 3 concerts de Noël de ce week-end au Théâtre des Champs-Élysées. Concert radio classique, évidemment, puisqu'on attend un Premier ministre, un peu comme le Messie. Voici celui de Handel. Oh
Radio Classique. Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Bonjour à tous. Nous partons pour l'année 1812, un coup d'État dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais on ne se lasse pas de cette extraordinaire histoire de la conspiration du général Mallet.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Quand on aime Napoléon, on n'aime pas forcément l'année 1812. Hein. L'empereur se trouve à Moscou, vous savez. C'est une fierté pour lui d'avoir conquis le Kremlin. Mais en vérité, il n'a rien conquis du tout. Le tsar a fui et la ville est en feu. Moscou fumant. Depuis Paris, on a célébré les victoires de Napoléon avec des tédéums qui ont été chantés à travers toute la France. Mais la vérité, c'est que ce qu'on apprend en provenance de Moscou n'est pas très enthousiasmant. Et il faut du temps, de toute façon, parce que les distances sont immenses. 15 jours pour que les nouvelles arrivent de Moscou à Paris, ça fait un immense décalage. Ça vaut aussi dans l'autre sens, bien entendu. Vers la fin du mois d'octobre 1812, tout le petit monde de l'Empire à Paris sait que l'avenir de la Grande Armée est très compromis. Les journaux, qui sont évidemment totalement sous contrôle gouvernemental, peinent à cacher l'absence de bonnes nouvelles. Et dans la capitale, certains se disent qu'on pourrait peut-être profiter de l'éloignement de Napoléon pour essayer de mettre en place un certain nombre de réformes et pourquoi pas même pour réaliser les plans qu'il rêve de fomenter depuis des années. Et parmi tous ceux qui y réfléchissent et y réfléchissent sérieusement, un certain Claude François Mallet. Pas facile de définir cette personnalité un peu complexe. C'est un cinquantenaire, il a 54 ans, Mallet. Est-ce qu'il est déraisonnable? Oui, sans aucun doute. Farfelu? Oh oui, un peu timbré, diraient même ceux qui le connaissent bien. Mais alors avec une imagination débordante et une confiance en lui qui ne l'est pas moins. Mallet a eu une assez belle carrière d'officier sous la Révolution, il a fini par être général. Bien qu'originaire d'une famille de la noblesse franc-comtoise, il est un républicain pur sucre. Seulement, il n'a pas aimé l'ascension de ce jeune général, ce Bonaparte-là qui lui a paru griller toutes les étapes. Le général Mallet est un des opposants à celui qui, après avoir été premier consul, a fini par se faire nommer empereur, proclamé empereur des Français. Alors, Mallet a essayé quand même de se faire élire au corps législatif au début de l'Empire, comme quoi il y a des ralliements qui sont toujours possibles, n'est-ce pas? Mais quand on perd les élections, là, les choses sont différentes. De cet échec lui vient probablement la frustration qui l'a conduit à franchir le pas et à basculer dans l'irrationnel. D'ailleurs, il a été à plusieurs reprises interné à Sainte-Pélagie, où on met les gens dont le mental vacille. Le général Mallet essaie par tous les moyens de renverser Napoléon. Mais enfin, quand on est dans une espèce d'hospice tout seul, sans moyens, sans contact et sans soutien, en 1812, ça fait 2 ans qu'il est en maison médicale. Au ministère de l'Intérieur, on ne le considère pas comme très dangereux. Hein, il n'est pas vraiment surveillé. On pense qu'il est assez inoffensif. En vérité, est-ce que le général Mallet est aussi inoffensif qu'il en a l'air?
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Depuis cette maison de santé surveillée, Mallet va organiser son plan et son plan, il l'organise avec ses voisins de chambrée. Alors voilà comment les choses doivent s'organiser. Il faut répandre d'abord l'information de la mort de l'empereur en Russie. Il faut répandre ça dans tout Paris le plus vite possible et profiter de l'état de sidération pour prendre le pouvoir, arrêter les ministres, arrêter le préfet de la Seine, prendre le contrôle de la capitale, nommer un nouveau gouvernement qui serait composé d'opposants à l'Empire, bien sûr. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1812, Mallet arrive à faire le mur, hein, il fuit la maison médicale, il a revêtu son bel uniforme de général, il a dans sa serviette un faux décret, un senatus consulte qui annonce la mort de Napoléon, document aurait été, alors c'est ce qu'il prétend, ce document aurait été voté par le Sénat dans la nuit et proclamerait 18 articles pour nommer un nouveau gouvernement dont le président serait le général Moreau, opposant à Napoléon qui depuis longtemps a quitté les lieux. Je vous cite les premières lignes du Senatus Consulte. Le Sénat, réuni extraordinairement, s'est fait donner lecture du message qui lui annonce la mort de l'empereur Napoléon, qui a eu lieu sous les murs de Moscou le 7 de ce mois.